cover.
Une balade dans l'univers des reprises musicales.
Bienvenue sur cette émission spéciale musique de dessin animé adaptée de BD, animée par Sarah
et Sophie.
Nous avons chacune choisi une musique et cherché pour vous leur reprise. Sarah, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui ?
Bah, ça va être le One Piece.
One Piece, oh là là là, les lecteurs de manga et ceux qui aiment les animés japonais vont te suivre avec plaisir.
Bah, j'espère. Alors, One Piece est un manga de type shonen créé par Oda. L'histoire raconte celle de Monkey D. Luffy, un pirate qui explore le Grand Line, qui est un monde fictif, avec l'aide de son équipage pour trouver le One Piece et devenir ainsi le roi des pirates. Comme il le dit Luffy, le roi des pirates, ça sera moi.
Luffy, c'est le personnage qu'on voit sur les couvertures la plupart du temps, c'est bien ça ?
C'est le personnage principal.
D'accord.
Et la particularité de Luffy, c'est qu'on le reconnaît grâce à son chapeau de paille, donc en jaune et rouge. Et il a aussi un corps élastique qui lui permet d'avoir des capacités hors normes. Et en fait, on va suivre toutes ses aventures depuis pas mal d'années maintenant. Le manga est sorti en 1997, donc bien après ma naissance. Donc j'avais 6 ans quand c'est sorti.
Dis donc, bien après ta naissance, 6 ans, c'est pas bien vieux, hein ? C'est bien après ma naissance.
Et One Piece, c'est aujourd'hui le manga le plus vendu au monde, avec plus de 500 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui est énorme pour un manga.
Ah ouais, mais carrément. C'est vraiment une renommée internationale ?
Renommée internationale, traduit dans je sais plus combien de langues différentes, c'est un truc qui est juste énorme. Et One Piece est beaucoup plus vendu que d'autres bandes dessinées comme Astérix ou Tintin. Et il va falloir attendre 2 années plus tard pour avoir la version animée de One Piece. Comme dans chaque animé qui se respecte, on a un opening qui est le générique d'ouverture et aussi une musique de générique de fin. Dans One Piece, comme dans tous les animés, il y a plein de musiques de générique qui apparaissent au fil des saisons. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la plus connue qui est We Are, qui est l'opening de la première saison de One Piece. Donc pour raconter un peu l'histoire derrière We Are, c'est un morceau de J-pop sorti en 1999. Celui-ci est interprété par le chanteur japonais Hiroshi Kitadani.
Quand tu parles de J-pop, c'est comme on a la K-pop pour la Corée et le J-pop, c'est pour le Japon, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord.
On va dire c'est l'équivalent, peut-être pas trop l'équivalent de la K-pop, mais bon, c'est de la pop en tout cas.
D'accord.
Mais en japonais. Et donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est d'écouter le morceau We Are, interprété par Hiroshi Kitadani.
の元熱に浮かされ漢字を取るのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かの
savoir ce que tu avais pensé de cette version originale du morceau We Are.
Alors c'est assez amusant parce que franchement, ce type de musique, forcément, ça me fait penser aux images des animés. Enfin, je ne peux pas dissocier ce type de musique d'animation visuelle en fait. J'y arrive pas.
comme je disais tout à l'heure, c'est la musique utilisée pour la première saison de One Piece. Et pour information, en fait, là, ce qu'on a entendu, We Are, c'est utilisé aussi dans le cadre d'épisodes spéciaux pour One Piece, car le morceau a été pensé exclusivement que pour l'animé.
Mmh. Qu'est-ce que c'est que dans le cadre de One Piece, en bonne petite novice, qu'est-ce que c'est cette idée d'épisodes spéciaux?
Comment expliquer, en fait? Je pense que ça doit être des... Enfin, je sais qu'il y a eu un cas où c'était, je crois, pour le 1000e épisode, je crois, où ils avaient utilisé cette musique-là, et puis bah, des épisodes spéciaux. Je pense que ça doit être des trucs additionnels doivent peut-être dévier de l'histoire, mais je suis pas sûr à 100% de...
C'était la question piège du jour.
Et plus récemment, bah, le morceau We Are a été utilisé comme générique pour le live-action One Piece, hein, qui est sorti en été 2023 sur Netflix. Et depuis, le morceau a été repris de nombreuses fois avec des versions pop, rock, etc. Et j'ai réussi à trouver aussi une version plus orchestre. Et je vais vous proposer d'écouter la cover qui a été faite par le groupe britannique City Spring Ensemble, qui a repris We Are de Hiroshi Kitadani.
C'est super dynamique.
Oui, ça change de la version originale.
J'ai beaucoup aimé.
Moi aussi, et en plus, ce que je disais avec Sophie en aparté, c'est qu'il existe même une version qui a été reprise par la marine japonaise. Mais malheureusement, j'ai oublié d'amener le morceau. Donc ça sera pour une autre fois. Et parmi toutes les covers, il y en avait une que j'avais trouvé pas mal, que j'avais pas amené non plus, c'était... une version qui avait été reprise par le DJ Steve Aoki, qui a fait une autre version du morceau We Are. Donc la cover qui va nous intéresser aujourd'hui est celle proposée par The Cover Duo. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas The Cover Duo, c'est un groupe de musique originaire d'Équateur. Formé en 2012, ils reprennent des musiques issues de la pop culture. La première cover qu'ils ont faite date de 2012. Il s'agit alors du morceau Somebody That I Used to Know de Gotti. Depuis, ils feront d'autres covers, notamment les génériques de Naruto, Ghostbusters ou encore Pokémon. Et la cover qu'ils ont faite de We Are de Hiroshi Kitadani date de 2021. Et la dernière cover qu'ils ont faite date d'il y a quelques mois, et c'est alors du générique de l'anime Dan. Et sans plus attendre, on va écouter la cover de The Cover Duo sur le morceau We Are. Bon, à croire que quand il y en a plus, il y en a encore.
C'était quoi ce petit bout qui s'est rajouté?
J'en ai strictement aucune idée, mais je pense que c'était dans la chanson.
Possible.
Donc ça nous permet de prolonger un peu le plaisir d'écouter ce morceau-là.
Tout à fait, c'était un vrai plaisir. C'était très dynamique et très sympa.
Bah, ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, The Cover Duo, c'est des covers, mais en espagnol. Et ça, j'aurais dû vous le dire dès le départ. Ah, mais bon, ouais. C'est pas très grave en soi.
Non, je crois que...
Donc, je voulais savoir ce que t'avais pensé de cette version-là.
Eh ben, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que j'ai trouvé un peu... Enfin, il y a une dynamique, là, pour le coup, qui est assez chouette.
Bah, je trouve que ça change de la version originale, bien qu'elle soit dynamique. Et là, il y a une autre... Je trouve que la langue espagnole, là, sur cette chanson-là, ça passe bien.
Ah, mais ça s'adapte même vraiment très, très bien. C'est un vrai plaisir.
Ouais. Donc, du coup, on va toujours rester dans le thème de la bande dessinée. Et on va parler d'une bande dessinée très mondialement connue aussi.
Eh oui, tout simplement. Moi, je suis repartie dans la BD française. On part bien quelques années avant le manga dont tu viens de nous parler, puisque je vous emmène parler d'Astérix et Obélix. Mais avant de vous parler de ça, j'avais vraiment envie de faire un hommage aux auteurs. Hein, parce qu'au sens de la légendaire amitié d'Astérix et Obélix, on a trouvé la complicité exceptionnelle de deux créateurs au talent vraiment complémentaires, qui ont créé d'autres séries de BD dont certains se souviendront, Oumpapa, Jeanne Pistolet, Lux Junior, Benjamin et Benjamin. Bon, en réalité, au bout d'un moment, ils vont surtout, en particulier le dessinateur, va continuer à travailler sur Astérix Obélix et il va abandonner les autres personnages. Donc pour commencer, René Goscinny. On est vraiment sur quelqu'un qui on va bientôt fêter le centenaire parce qu'il est né en 1926. À Paris. Et comme il est né la veille d'un jour férié, il a dit plus tard qu'il était un paresseux contrarié. Quand on voit la quantité d'Astérix et Obélix qui sont sortis, plus toutes les autres collaborations, on dit que c'est un paresseux qui travaillait quand même beaucoup. Il a grandi en Argentine, où il est devenu assistant dessinateur dans une agence de publicité. Puis après, il est parti à New York. Ça a été une grosse galère au départ, pas d'argent, peu de travail. Et puis finalement, il a décidé de venir en France pour effectuer son service militaire. Et il est reparti à New York, où il va travailler pour la revue humoristique MAD. Donc, il va vraiment aller faire ses classes dans une revue telle que ça n'existait pas encore en France à l'époque, autour de la BD. Et en 1949, il va faire la connaissance des dessinateurs Jigé, Maurice, et du coup, il va partir s'installer à Bruxelles. Et là, il va rencontrer Jean-Michel Charlier, qui va discerner tout de suite l'extraordinaire talent de scénariste de Goscinny, et il va le faire embaucher. Donc sa première mission, ça a été de récupérer à Paris des pages illustrées par un certain Albert Uderzo. Et nous sommes en 1951. Et à partir de leur rencontre, ils ne se quitteront plus. Ils vont multiplier les projets, ils vont faire naître de nombreux héros. Et puis, en 1959, avec Jean-Michel Charlier, Jean Hébrard, François Clotot, ils vont créer le journal Pilote, qui était un grand hebdomadaire à destination de la jeunesse. Et le 29 octobre 1959, le numéro 1 de Pilote présente en page 20 la première planche des aventures d'Astérix le Gaulois à ses lecteurs qui vont tout de suite être captivé. Le journal va connaître un succès immédiat. Il y avait eu 300 000 exemplaires d'imprimés. Ils ont tous été vendus le premier jour. Donc on est vraiment dans du gros succès. Et René Goscinny va collaborer avec de nombreuses sur de nombreuses bandes dessinées et séries. Bon, Astérix bien sûr, mais aussi Is No Good avec le dessinateur Tabary, le petit Nicolas avec Sampé, Lucky Luke de Maurice, Valentin de Tabary, les Dingos d'Ossier avec Gottlieb. Enfin bon, c'est quelqu'un qui a une imagination fertile. Et Astérix est devenu un héros majeur de la bande dessinée française, avec un succès qui va croissant d'album en album, et évidemment qui a fait non seulement le bonheur de l'enfance de la majorité des enfants à travers le monde, parce que ça a été traduit dans beaucoup de langues, comme One Piece, dont tu nous parlais tout à l'heure. Albert Uderzo, lui, il est né le 25 avril 1927 à Fismes, dans la Marne. Alors lui, gros talent pour le dessin, totalement autodidacte. Il passait son temps à dessiner, il noircissait ses colliers, des colliers de croquis. On a même retrouvé des colonnes romaines sur certains cahiers de l'école. Enfin bon, c'était un amoureux des héros de Walt Disney. Et vraiment, lui, son truc, c'était travailler un jour dans l'industrie du dessin animé. Et donc, dès l'âge de 10 ans, il a commencé à crayonner des personnages à gros nez. Tu vois où on va?
Oui.
En 1942, son frère part en Bretagne et puis il lui demande de venir le rejoindre. Bah, franchement, la région bretonne lui plaît beaucoup, mais évidemment, il doit retourner à Paris. Et à la Libération, il va s'essayer au dessin animé, il va travailler sur plusieurs revues, il va créer et dessiner de nouveaux héros, partira à l'armée. Et en revenant de l'armée, en 1945, il va devenir reporter dessinateur à France Dimanche. Et il va travailler pour deux agences de presse, et dont c'est comme ça qu'il va rencontrer, lui, Jean-Michel Charlier. Et en 1951, donc, évidemment, rencontrer Goscinny. Au départ, dans les années 1950, les temps sont durs et pour gagner sa vie, Albert Uderzo va exécuter jusqu'à 9 planches en une semaine, ce qui représente un travail colossal pour tous les dessinateurs et tous les BDistes. Vous voyez très bien le rythme phénoménal de cet homme. Parfois, les dessins, ils étaient même réalisés directement à l'encre, sans crayonner, par manque de temps. Enfin, il y a vraiment un génie total chez cet homme. Les deux auteurs continueront quelque temps certaines séries au départ. Donc...
Après, ils vont se concentrer qu'à Astérix et Obélix. Hein.
C'est ça. Le 5 novembre 1977, René Goscinny meurt lors d'un test d'effort effectué dans le cadre d'un bilan de santé. Il avait 51 ans, ce qui est franchement très jeune. Et à partir de ce moment-là, Albert Uderzo, il va reprendre seul les aventures du héros gaulois et créer les éditions Albert René. Et là, vraiment, il a fait un joli pied de nez à tous les gens qui avaient dit qu'à partir du moment où René allait décéder, vraiment, ça ne serait pas possible de continuer. Et si, effectivement, Albert Uderzo, il a continué à produire les histoires d'Astérix et Obélix. Il en avait vraiment besoin pour ne pas disparaître lui aussi dans le chagrin. Mais de toute façon, comme il avait déjà 26 années de complicité avec René Goscinny, pour lui, ça coulait de source, quoi. En 50 ans, Astérix est devenu un phénomène du monde de l'édition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 34 albums traduits en 107 langues ou dialectes. 11 films, un parc de loisirs à son nom, des produits dérivés, etc. Plein d'autres projets. Et puis le 24 mars 2020, Albert Uderzo... et nous a quittés lui aussi, laissant derrière lui un dessin de virtuose, passant avec le même brio du dessin réaliste au style humoristique qu'il a associé dans une synthèse graphique unique. Et il a influencé les auteurs de BD de façon durable. Voilà. Si on en vient à l'adaptation cinématographique, parce que c'était le but du jeu, eh bien, Astérix le Gaulois a été la première adaptation en 1967, et ça a été fait à l'insu de René Goscinny et Albert Uderzo. Ils ne savaient pas qu'on allait adapter leur BD. Ils n'ont pas tellement aimé, en fait. Et l'année suivante est sorti vraiment un projet à la hauteur des chantiers de la Reine des Reines. 150 personnes qui travaillent pendant 8 mois, fournissant 50 000 dessins et 300 décors. Et la publicité à l'époque en avait même rajouté en annonçant un gag tous les 2 secondes. Bref, c'est la naissance d'Astérix et Cléopâtre qui a eu un succès immédiat, qui a laissé quelques chansons pas mal connues de tout le monde, dont le fameux « Le pudding à l'arsenic » que je vous propose d'écouter maintenant.
Eh bien, puisque c'est comme ça, j'ai une idée horrible. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'ai une idée horrible. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels.
Oui.
Macarons foudroyants.
Pas mal.
Tarte au venin de vipère.
Classique.
Clafoutis au curare.
Bon.
Oh, le pudding à l'arsenic.
Oh oui.
Dans un grand bol de strychnine, d'LDI, de la morphine, faites-y dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue. Un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non.
Hein?
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique. 2 cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur portée à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah
bon.
verser la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Presser trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non! Oui!
Ah, je savais bien que ça serait bon. Nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles?
Des
Gaulois.
Yeah.
Alors ça t'a fait quel effet?
Bah je suis retournée en enfance. Et c'est clairement un de mes passages préférés dans Astérix et Cléopâtre.
Oui. Un dessin animé qui, franchement, on se le disait en écoutant la musique, est quand même très intemporel et facile à regarder, même maintenant, malgré tous les progrès technologiques qui ont été faits sur les dessins animés. Celui-là, il se laisse regarder dans son jus d'origine, sans problème.
Bah, surtout que la chanson, là, le pudding à l'arsenic, ça rentre très facilement dans le cerveau.
Oui, je confirme, parce qu'entre le moment où je me suis dit qu'il fallait que je prépare l'émission et mon choix du pudding à l'arsenic, je l'ai eu beaucoup dans la tête.
Je comprends tout à fait.
Alors, le pudding à l'arsenic, il a été repris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je vous ai sélectionné deux reprises. La première, c'est le groupe Magoyon, qui a repris en 2019. Je vous ai pris vraiment des reprises récentes. Donc, c'est issu de l'album Crypt Show. Et donc, vous entendrez Julien dit le Mago Escalas chant et guitare, Arnaud dit Aspic au piano, Bruno dit Nobru à la batterie, Victor dit Vito à la guitare, Arthur Heim à la guitare et acoustique, Léna Toré à la basse, Clémence Ricochon au violon et Aymeric Corillo au violoncelle. Beaucoup de très beaux instruments pour une recette qui ne m'aimait pas forcément en appétit.
Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Macarons foudroyants. Tarte au venin de vipère. Clafoutis au curare. Oh, je sais. Le pudding à l'arsenic.
Un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, fait tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivron grand.
Non.
Ah, bon.
Mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillère de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, j'ai dur du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah, oh bon.
Verser la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Presser trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non. Oui.
Je savais bien que ça serait bon.
Arsenic.
fait ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles de zombies.
De retour sur Discover.
Alors Sarah, t'en as pensé quoi?
Bah, c'est vrai que ça change de la version originale, mais ça reste fidèle à la version originale.
Ce qui me fascine dans les reprises que j'ai écoutées au sujet du poulet et l'arsenic, c'est qu'à chaque fois, les chanteurs, les chanteuses aussi, sont à fond dans le rôle vraiment de faire leur popote, de trucs un peu toxiques et tout. Enfin, franchement, les gens ont l'air de s'éclater à imaginer qu'ils vont tuer quelqu'un. C'est un peu flippant quand même.
Bah, surtout qu'au départ, c'est... Enfin, si on revient à Astérix et Cléopâtre, c'est pensé pour empoisonner Astérix, Obélix et Panoramix.
Non, Cléopâtre.
Oui, aussi.
Aussi, bah, beaucoup même. Mais c'est vrai que c'est absolument... Ouais, c'est vraiment fascinant. Alors, je me suis contentée d'aller voir du côté des reprises françaises. Il y en a certainement dans plein de langues, puisque c'est les albums de BD et les adaptations en dessins animés sont internationales. Mais... Pour autant, je ne sais pas, peut-être parce que moi aussi, quelque part, avoir la liste, la composition de ce fameux pudding à l'arsenic, ça doit me fasciner comme tout le monde, je ne sais pas. Donc, je suis repartie sur la chanson, donc le pudding à l'arsenic, par un groupe québécois cette fois-ci. Ça va être encore du francophone, hein, mais pour autant, on va quand même traverser l'Atlantique. Donc, les colocs sur l'album Atrocétomique en 1995. Donc, le chanteur du groupe, qui s'appelle André Fortin, c'est un auteur, compositeur, chanteur, multi-instrumentiste et cinéaste, né en 1962, dans une ferme de rang près de Saint-Thomas-d'Idyme. Donc, là, on est vraiment au Québec, quoi. Il est mieux connu sous le nom de Dédé. Et il a été le membre fondateur et le meneur du groupe Les Colocs de 1990 à 2000. Et il a été toujours reconnu pour son engagement social dans sa vie, dans son œuvre. Et au sein des colocs, il a signé plusieurs chansons qui sont devenues des classiques, en tout cas au Québec, parce que j'avoue que je ne suis pas très au point sur toute leur discographie. Julie, Passe-moi la puque, La rue principale et Tassez-vous de là. Des chansons qui révèlent un être sensible et authentique auquel le public québécois s'identifiait aisément, toutes générations confondues. Et André Dédé Fortin a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes et de créateurs qui revendiquent actuellement son influence au Canada. Voilà. Donc on vous laisse découvrir cette version du pudding à l'arsenic par les Colocs.
Alors mon bon fils, mon maître, avez-vous préparé quelque chose de diabolique?
Ce sera du gâteau.
Ah bon?
Beignet mortel?
Non.
Clafoutis au curare?
Classique.
Macaron foudroyant?
Non.
Tarte au venin de vipère?
Pain de...
Ok.
Ha!
Le pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, dilué de la morphine, faites-y tirer à la casserole un grand verre de pétrole. Je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non! Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif et faites bouillir un feu vif. Je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tire du sang de lézard, bouillir dans un dé à coudre
et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah.
de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non.
Ouais.
Là encore, on sent vraiment que la chanson, elle porte les interprètes à se dépasser dans le gros délire. Qu'est-ce que tu en penses ?
J'allais dire exactement la même chose.
Et bien sur ce, nous allons laisser nos auditeurs.
Exactement. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est est-ce que le pudding à l'arsenic aura été efficace ou pas ? Et pour ça, je vous invite d'aller regarder Astérix et Cléopâtre.
Ah oui, ça c'est une très bonne idée. D'ailleurs, plus que ça, prenez le temps de relire la BD pour voir tous les petits détails vraiment typiques de cette BD qu'on peut lire et relire et redécouvrir à chaque fois de nouveaux détails. Et puis, bien sûr, allez voir aussi le dessin animé. Et puis, éventuellement, dans la foulée, vous pouvez aussi aller voir la version avec Monica Bellucci et Alain Chabat, si ça vous fait plaisir.
Donc du coup là pour One Piece, je vous invite aussi à redécouvrir le manga.
Bonne idée.
Parce qu'il y a beaucoup de détails différents et puis ça permet d'avoir... Il y a tellement de personnages différents, de choses à explorer que en fait c'est un truc infini.
Oui, alors par contre, tu nous as bien dit qu'il y avait déjà 107 albums de sortie.
104 en France de mémoire, mais pense que ça a dû monter depuis.
Oui, donc tu me fais peur parce qu'il faut du temps là pour les lire.
Exactement, et c'est pas fini.
D'accord.
Parce que là, pour l'instant, il n'y a aucune date de fin de One Piece. Mais bon, je me dis, pour l'auteur, ça doit être un peu lourd, je pense, d'être toujours sur le même projet, en fait.
A priori, la création de manga, elle est pas c'est surtout des créations studio, donc peut-être que le fait de travailler en équipe permet de maintenir la longueur du temps. Déjà, on voit bien, Asterix et Obélix, c'est déjà du travail d'équipe. Mais je crois que sur les mangas, c'est vraiment très, très, très grosses équipes, justement pour faire durer le plus longtemps possible les séries. Donc, j'ose croire que ça va durer encore longtemps.
Surtout que One Piece, en fait, ça sort de mémoire, c'est toutes les semaines. Donc, en fait, il faut quand même tenir une certaine cadence pour pouvoir, notamment pour la version animée, il faut que ça puisse sortir très très régulièrement.
Oui, ça demande derrière effectivement des grandes équipes de production.
Donc c'est sur cela qu'on va vous laisser pour ce Discover.
Et nous aurons le plaisir de vous recroiser pour une autre émission moment donné cette année. À très vite.
À bientôt.